La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Menardi. Prise de son assurée ce soir par Audrey Delille. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Lucille Como, Anna Sigalevitch et Emmanuel Dupuis pour parler ensemble de Don Carlos, de Giuseppe Verdi, dirigé par Daniele Rustioni, mise en scène Christophe Honoriste à l'Opéra de Lyon. Le Domino Noir de Daniel François Esprit Aubert, dirigé par Patrick Davin, mise en scène Valérie Lessort et Christian Eck à l'Opéra Comique. Et Benvenuto Cellini de Berlioz, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Terry Gilliam à l'Opéra Bastille. Coppelia Menardi est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires via Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour l'exposition Guernica à découvrir jusqu'au 29 juillet au Musée National Picasso Paris. Nous avons parlé il y a 5 mois maintenant d'une production de Don Carlos de Verdi. C'était une mise en scène de Christophe Varlikovski à l'Opéra de Paris. Cette fois, c'était à l'Opéra de Lyon, sous la direction de Daniele Rustioni. Et une mise en scène de Christophe Honoré, Don Carlos, car c'est bien la version française qui a été à nouveau choisie, créée le 11 mars 1867 à l'Opéra de Paris, avant d'être remanié quelques années plus tard, devenant Don Carlo pour la scène italienne. C'est une œuvre qui est jugée à part dans l'œuvre de Verdi depuis sa création. Don Carlos, qu'on a taxé parfois de wagneriste. Comment se portent ces belles fleurs italiennes qu'un critique avait trouvées flétries par le vent fatal du Nord à sa création? Comment elles se portent à Lyon? Réponse de nos critiques après avoir écouté un extrait de cette production. Voilà pour cet extrait de la production, alors en ce moment à l'affiche de l'Opéra de Lyon de Don Carlos. Parlons musique, puisque c'est quand même cela que l'on vient d'entendre. Emmanuel Dupuis.
Alors, à propos de la musique, bon, forcément, on est amené à établir des comparaisons avec ce que l'on a entendu il y a quelques mois à l'Opéra de Paris. Et bon, il faut avouer que l'orchestre de l'Opéra de Lyon, tout comme le chœur d'ailleurs, n'a pas la somptuosité de celui de l'Opéra de Paris, c'est assez évident. Mais en revanche, j'ai été davantage convaincu par la direction de Daniel Rustoni, qui est très engagé, qui est à la fois tendu et soucieuse du détail instrumental, qui fait vraiment rayonner l'esprit du grand opéra dans la fosse de l'Opéra de Lyon. L'esprit du grand opéra qui rayonne davantage dans la fosse d'ailleurs que sur la scène, nous allons y revenir. Ensuite, concernant la distribution, c'est une distribution qui n'est pas sans faiblesse. Et pour moi, la plus grosse faiblesse vient de Sally Matthews, soprano qui chante Elisabeth. Et c'est une voix tout simplement usée, avec un très large vibrato, avec des registres désunis. Et en plus, une prononciation du français qui n'est pas très nette. Le ténor qui chante Carlos, Sergueï Romanovski, est russe. Lui, il a un beau timbre, une diction assez correcte, à défaut d'être parfaite, mais c'est pas toujours très juste. L'aigu ne se libère pas totalement, il est même parfois totalement étranglé. En revanche, le niveau monte vraiment d'un cran avec Eve Maud Hubot, mezzo-française, qui est vraiment très convaincante dans le rôle d'Eboli, et elle a beaucoup de mérite parce que le metteur en scène l'oblige à chanter assise, puisqu'il la cloue dans un fauteuil roulant pendant pratiquement tout le spectacle. On ne sait pas d'ailleurs trop pourquoi. Et puis, il faut aussi citer Michele Pertusi, qui chante Philippe II, et qui est vraiment excellent, avec beaucoup de noblesse, beaucoup de style. C'est vraiment un très grand chanteur. Mais pour moi, le meilleur, c'est celui que l'on vient d'entendre. C'est Stéphane Degout, qui chante Rodrigue, le marquis de Posa. Et il a tout pour ça, il a le gâteau, la beauté du timbre, la sensibilité de la diction, la sensibilité musicale aussi. Et puis il a une chose qui manquait à mon sens à Ludovic Thésier à Paris. Ludovic Thésier qui est un magnifique chanteur, cela va sans dire, mais il manquait quelque chose quand même, c'est le côté passionné et idéaliste du personnage. Et ça, Stéphane Degout le communique vraiment.
Alors, est-ce que vous partagez, Lucille Como, ces premiers points de vue? Ah non, vous n'avez pas pu aller à Lyon, c'était la grève, pardon, grève.
J'étais coulée moi-même.
Et en plus, le soir où vous auriez dû y aller, il y avait grève à l'Opéra de Lyon, si j'ai bien compris.
Exactement.
Donc, pardon. C'est Anna Segalevitch donc, qui enchaîne sur cette production de Don Carlos à Lyon.
Oui, je suis d'accord avec absolument tout ce qu'a dit Emmanuel, franchement.
Bon, passons à la suite.
Non.
Alors, le domino noir.
dans les détails, effectivement. Je pense que ça sert à rien de comparer en fait la production de Paris et la production de Lyon parce que
quand on voit deux spectacles à un intervalle court, voilà. Ce qui est un peu normal, c'est qu'on.
Oui, moi je dirais qu'on peut se réjouir de revoir Don Carlos une deuxième fois.
Tout à fait.
Non mais bien sûr.
Tant la pièce est rarement donnée, et elle est géniale. Donc moi j'ai vraiment pris un plaisir fou, avant tout musical de l'orchestre, parce que. Dès l'ouverture, je trouve que Daniele Rustoni a quelque chose de franc dans sa façon de diriger. Il cherche la ligne tout le temps, il y a du mouvement tout le temps, c'est animé tout le temps. C'est vraiment, ça chante, c'est beau, c'est généreux, c'est franc. Oui, il n'y a pas bien sûr la finesse et la somptuosité, comme vous le disiez Emmanuel, de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, mais il y a un mouvement qui tient pendant tous les cinq actes, avec une passion, une fougue, un engagement qui je trouve est beau et touchant. J'étais très emballée par cette direction, et le plateau vocal, alors là c'est encore plus bon. Bien sûr que le jeune ténor Sergueï Romanovski n'est pas Jonas Kaufmann, et Sally Matthews, là pour le coup encore moins Sonia Yoncheva. Moi, je trouve que ça se tient plutôt dans l'ensemble, à part, en effet, Sally Matthews. Je suis d'accord avec vous, Emmanuel. Enfin, le vibrato est très large. Et puis, la voix est un peu empoulée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas. Par moments, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle faisait. C'est une incarnation en scène pas mal, parce qu'elle a une sensualité, elle a quelque chose.
Pas tout à fait convaincue, Emmanuel.
Si, parce que, bon, c'est, en plus, elle est une femme assez belle. Donc, bon, effectivement, l'incarnation est assez convaincante. Mais
et son vocalement... dernier air est pas mal.
Bon, soupir, des mêmes
du puits. Pas le même soir, parce que.
Alors du coup, vous enchaînez, voilà, Anna, avec la vision de Christophe Honoré.
Alors
cet
la vision de Christophe Honoré, elle est.
On avait été déçu, rappelons-le, par Christophe Varlikovski, qui n'avait pas donné son meilleur. C'est
moi, j'avais pas détesté du tout la mise en scène de.
Moi, j'avais trouvé très
de Christophe Varlikovski. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes, et là, il y en a.
Du puits, pour rappel.
Non, mais a posteriori.
D'accord, par comparaison, voilà. Non mais bon, d'accord.
Je finis par trouver des qualités à Val.
Non, franchement, enfin, moi, elle me reste
c'est la... C'est pas le même niveau.
Finalement, oui.
La mise en scène de Christophe Warlikowski, je trouve que il y avait des enjeux qui étaient très bien traités, le côté politique était très bien traité, enfin, il y avait quand même des choses très intéressantes. En tout cas, moi, je m'en souviens bien de cette mise en scène. La mise en scène de Christophe Honoré m'a plu aussi. Différemment, là encore, le décor est assez simple, c'est beaucoup de rideaux qui représentent différents espaces, différents climats. Il y a une grande stèle qui figure à l'acte 2. Je commence à m'embrouiller. Il y a la grande stèle quand
il y a une grande stèle à un moment donné.
Il y a une grande stèle à un moment donné. Ce qu'il a pour moi très bien traité, c'est le rapport père-fils. Le rapport... vous ne trouvez pas le rapport...
Ça m'a un petit peu échappé, mais...
Alors, comment le traiter selon Anna Segalevich, après on aura la vision d'Emmanuel Dupuis.
Donc, quand Posa vient défendre la Flandre et se montre audacieux et téméraire auprès du roi Philippe, et ben là, dans ce Don Carlos, Philippe, il s'en fiche un peu. Il est prêt à le mettre dehors, sauf que quand débarque... Don Carlos, tout d'un coup, il s'intéresse à Posa et lui dit « Ah mais oui, tiens, tu peux venir quand tu veux, en fait, reste, tu peux venir quand tu veux dans le palais et les portes te seront toujours ouvertes. » Par provocation et pour humilier son fils. C'est des détails qui se jouent, qui sont assez subtils, je dois dire, mais du coup, je trouve qu'on sent bien les enjeux entre les enjeux familiaux et ce père qui veut absolument écraser ce fils.
Il y a d'autres choses... Emmanuel Dupuis, sur ce point-là ?
Oui, des détails subtils, peut-être un peu trop subtils, parce que la plupart du temps, moi, ils m'ont échappé, justement. Cette dimension père-fils, cette relation si complexe entre Philippe II et Don Carlos, j'ai trouvé justement que Christophe Honoré n'en faisait pas grand-chose. Et j'ai trouvé même qu'il y avait quelque chose d'assez statique dans sa direction d'acteur. Et même d'assez convenu, d'assez conventionnel. Et du coup, on n'apprend pas grand-chose à la fois sur les ressorts intimes du drame et sur ses ressorts politiques. J'ai eu en fait le sentiment d'un grand renoncement théâtral. J'ai eu l'impression que Christophe Honoré refusait de prendre l'ouvrage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un grand opéra flamboyant avec du grand spectacle, qu'il refusait de vraiment traiter les grands enjeux de cette matière dramatique qui est si riche et si touffue. Et pour moi, le plus grand symptôme de ce renoncement théâtral, c'est la scène de l'autodafé. Tout simplement parce que la scène de l'autodafé, qui normalement est un moment, alors là, pour le coup, de grand spectacle, hein, où il y a deux chœurs, une quantité incroyable de solistes sur scène, mais cette scène n'est tout simplement pas mise en scène. À ce moment-là, le décor...
Oui, c'est un tableau fixe.
C'est un décor avec neuf alcôves, et le chœur et les protagonistes sont tous flanqués au fond des neuf alcôves, donc il n'y a plus aucun mouvement, et du coup on ne comprend plus du tout ce qui se passe vraiment à ce moment-là.
Il y a un côté Ponce Pilate, je trouve, à ce moment-là, une sorte de chose biblique, un peu à la Jérusalem.
Si on veut, j'ai vu à ce moment-là une absence de théâtre, tout simplement.
Ouais. Une esquive.
Oui, une esquive, en scène. Totalement.
Non, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Je trouve que les choses sont évoquées, elles sont pas surlignées en effet, mais il y a plein de différents climats et j'ai ressenti les enjeux. Alors a priori, donc vous parliez du personnage d'Eboli. Alors pourquoi est-elle paralytique? Ça peut faire peur a priori. On peut se dire oulala, c'est un effet. Elle débarque en fauteuil roulant avec sa jambe de bois. Eh ben non, parce que je trouve qu'elle est touchante et que c'est un personnage presque un peu à la Lady Macbeth qui apparaît, de figure de sorcière comme ça, un peu brisée, un peu monstrueuse.
Mais et elle est ça de toute façon. Donc est-il besoin de la mettre en fauteuil roulant pour souligner cet aspect-là? Je suis pas sûr. Bon, pourquoi pas. Mais après, vous parlez de changement d'atmosphère. Là, je vous rejoins pas, parce que le décor, c'est essentiellement, comme vous l'avez dit, des grands murs noirs et des grands rideaux, point barre, qui bougent. Et les mouvements de ces rideaux sont censés faire des changements de décor, mais en réalité, non. Il y a pas vraiment de. À un moment, on est censé être dans un cloître, après dans un jardin, ensuite dans un palais. Oui, enfin, c'est à peine suggéré. Enfin, quelqu'un qui n'a jamais vu Don Carlos, qui n'a pas lu le synopsis, à mon avis, n'y comprendrait pas grand-chose.
Alors, quelques commentaires, peut-être, avant juste de poursuivre. Coppelia Menardi, sur les réseaux sociaux.
Oui, sur Twitter, Elodie Martinez parle d'un très beau Don Carlos à l'Opéra de Lyon. Quel Rodrigue, quel Eboli, quel plaisir de retrouver Roberto Scandiuzzi. Bref, quel spectacle. Un commentaire également de Gap, qui écrit « Stéphane Degout et Ève Modubo sont inoubliables dans ce Don Carlos lyonnais. Diction parfaite, intelligence du chant, complètement investi dans leur rôle et quelle direction d'acteur !»
Bon, alors direction d'acteur, mais... Non.
Mais c'est vrai que... Anna
Segalevich.
Stéphane Degout, c'est éblouissant parce que c'est vraiment un homme qui chante, quoi. C'est pas un chanteur, c'est pas un acteur. Il a une sensibilité, une humanité quand il est en scène de bout en bout qui rend le personnage infiniment touchant et bouleversant. Sa mort est bouleversante.
Oui, mais c'est la différence entre un très bon chanteur et un grand artiste. Mmh. Et Stéphane Degout est un grand artiste. Ça, c'est sans aucun doute.
Et il domine quand même cette distribution...
Oui, oui, tout à fait. Alors après, bon, un petit détail quand même, puisqu'on faisait des comparaisons par rapport à la production parisienne. À Paris, le ballet avait été coupé, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même une pièce assez essentielle dans l'ouvrage. Là, on nous rend le ballet enfin en partie, puisqu'il est quand même un petit peu écourté. Oui. Mais le problème, c'est que ce ballet, enfin la musique en tout cas, est polluée par ce que l'on voit, parce que d'abord, la chorégraphie...
Madison.
Voilà, c'est une espèce de
country,
Madison ou de dance country.
C'est parler la spécialiste Anna Segalevich
de
danse.
La figure
donc Madison
de
peut-être. Donc ça fait quand même beaucoup de bruit parce que ce sont des pas quand même assez assez bruyants effectivement.
Avec des quarts de tour où tout le monde change.
Voilà. Et puis ouais, on se croirait dans un saloon. Bon bref. Et ensuite après cette entrée en matière, il y a une pluie qui tombe des cintres dans un petit bassin qui est au milieu de la scène. Et puis il y a quatre malheureux qui ont des ébats assez convulsifs dans ce bassin, et la pluie tombe elle aussi assez bruyamment dans le bassin, donc du coup dans ces conditions le ballet on n'est peut-être pas si content de le retrouver, quoi.
Bon,
mais moi je le trouve pas inintéressant.
Décidément, à la Cérémonie, vous avez adoré.
Non, je le trouve pas inintéressant. Il y a quelque chose du peuple comme ça qui est malade, qui souffre, qu'on veut cacher, qu'on regarde en même temps. Il y a quelque chose d'obscène dans ce ballet que je trouve un peu long mais pas inintéressant.
Bon, mais vous aurez été d'accord sur à peu près rien, si ce n'est
Stéphane Degout. Sur la musique, quand même.
Oh, bah oui.
Au point de vue scénique.
Voilà.
Terminer ma phrase. Don Carlos, Giuseppe Verdi, Daniele Rossioni, Christophe Honoré, à l'Opéra de Lyon jusqu'au 6 avril. Et à suivre, dans la dispute, le Domino Noir et Benvenuto Cellini.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique, en nous rendant cette fois à l'Opéra Comique, où Valérie Le Sor et Christian Eck, magicien loufoque, mais très pointu de la mise en scène, comme ils l'ont montré avec 20 000 lieues sous les mers à la Comédie Française, sont cette fois donc aux commandes du Domino Noir, un des plus grands succès scéniques lyriques du 19e siècle, joué plus de 1200 fois. Son compositeur Daniel François Esprit-Aubert est peut-être aujourd'hui plus connu pour sa station de RER que pour son œuvre, mais c'est l'occasion justement de se rattraper avec cette farce assez délirante, mais pas que. Là, c'est Patrick Davin qui est dans la fosse pour cette production.
Thank you.
Alors j'aurais dû le préciser avant, mais je le précise après. Extrait de la Générale, Cyril Dubois, qu'on vient d'entendre, ne donne pas tout à fait la même chose dans les représentations réelles, en tout cas celles à laquelle vous avez tous trois assisté hier au soir. Et puis on a entendu bien sûr aussi Anne-Catherine Gillet dans ce domino noir. C'est Lucille Comeau, ça pour le coup, je sais que vous y êtes allée. Hein. C'était hier soir, vous êtes partie du bureau, vous alliez à l'Opéra Comique, quoi.
Oui, c'est un spectacle vraiment très réjouissant. Moi, j'ai trouvé à peu près à tous les points de vue. Vous le disiez, c'est vraiment un tube de l'opéra comique. Et on sent que ces metteurs en scène, dont c'est le premier ouvrage lyrique, on l'ont vraiment pris comme ça, comme un tube de l'opéra comique, en faisant la part belle à tous les divertissements qui sont en germe à la fois dans la partition et dans le livret. C'est un ouvrage assez particulier. Donc là, on l'entend pas, mais il est un peu chanté, un peu parlé, en fait beaucoup parlé. Mmh. Il y a beaucoup de théâtre, de pur théâtre dans le livret. Et puis, il fait appel le long des trois actes à la fois des univers assez différents. Donc le premier acte se passe dans un bal aristocratique. Le deuxième, c'est une sorte de farce un peu lors d'un dîner, une espagnolade, on va dire. Et le troisième acte se passe dans un couvent. Et à l'intérieur de ça, il y a énormément de choses. Il y a à la fois de la satire anticléricale, beaucoup d'humour et de parodie de ce que c'est que le romantisme, puisqu'on est dans les années 1830, et puis du comique assez burlesque, pur, voilà. Et là, de ce point de vue-là, la mise en scène respecte parfaitement le livret, parce qu'on a tous les types de comiques possibles, et c'est en partie pour ça que c'est réjouissant, parce qu'il y a à boire et à manger, quoi. On n'arrête pas, c'est le cas de le dire, on n'arrête pas de rire, et on rit à la fois de pure gag. Donc, par exemple, pendant l'ouverture, on a une sorte de petite chorégraphie, de petits ballets de dominos, mais les dominos, les jouets, quoi.
Enfin, les formes,
voilà,
avec d'abord le monsieur qui passe en décor de rideau,
tout à fait, qui se cache dans le rideau. Bon, et voilà, il se casse la figure, enfin, il y a le côté gaguesque présent dès le départ, mais il y a aussi le côté parodique, notamment on entendait Cyril Dubois, il incarne vraiment une sorte de héros romantique, donc ce fameux Horace exacerbé qui imite dans ses affres les plus douloureux, les plus ridicules le héros romantique. Donc on a vraiment tous les comiques possibles, tous les humours possibles qui sont convoqués, et je dois dire que c'est tenu dans un décor, je pense qu'on peut peut-être parler de ça tout de suite parce que moi c'est ce qui m'a le plus impressionné, c'est que je trouve qu'il y a une intelligence du décor, mais même je dirais plus de l'objet sur scène, qui est vraiment formidable et qui sert le comique à un point vraiment que j'ai rarement vu sur scène. Il y a tout, il y a un décor, une scénographie qui est signée Laurent Peduzzi qui est superbe, notamment le premier acte pas facile à mettre en scène en plus parce que ça se passe dans une antichambre, donc a priori il se passe pas grand chose et le bal là est figuré en arrière-plan derrière une vaste, une très très grande horloge à la Cendrillon puisqu'il s'agit de partir avant minuit. Et donc du coup, la scène est découpée de manière très intelligente, avec des effets de lumière qui font qu'on voit au fur et à mesure que le bal se situe derrière. Il y a des marionnettes qui sont extrêmement drôles. En fait, il ne faut pas même pas trop en dire, parce qu'il y a vraiment des effets de surprise.
Ne révélons pas toutes les surprises.
Mais vraiment, ça foisonne, enfin, ça n'arrête pas, il y a une forme d'exubérance. À la fin du premier acte, je me suis dit, en plus il y a une pause, parce que du coup il y a un changement de décor qui n'est pas en entr'acte. Et je me suis dit, oulala, mais comment ils vont faire pour tenir ce rythme-là d'innovation et puis même au niveau vocal, bon, je vais laisser la parole, mais comment ils vont continuer à tenir ce niveau-là de surprise? Et en fait, on n'est pas déçus jusqu'au bout, ça fonctionne très bien.
Anna Sigalevitch, le domino noir et vous?
Oui, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'ils font feu de tout bois avec un sens du rythme qui est absolument phénoménal et un sens du rythme qui est à la fois scénique et qui sert la musique. C'est-à-dire que par exemple, quand ils rajoutent des petites choses, donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas gâcher les surprises, mais ça arrive au deuxième couplet ou ça arrive au troisième couplet. Tout ça est très savamment dosé et à chaque fois qu'il pourrait y avoir un petit ventre mou, parce que par moment la musique peut être un peu répétitive et que l'action n'est pas toujours non plus passionnante, eh bien, ils arrivent à animer la scène sans que ce soit lourdement gaguesque et sans que ce soit pesant. C'est subtil, sans aller trop non plus vers le gag et en laissant de la place au romantisme, à la légèreté et à la fraîcheur des personnages, ce qui est aussi important dans le livret et dans le spectacle. Et puis, ce qui est très réussi, à mon sens, ce qui est vraiment la grande réussite, c'est l'équilibre entre chant et théâtre. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, ils font un pari qui est assez audacieux, qui est de prendre deux comédiens pour des rôles qui chantent aussi. Ces comédiens qui sont Sylvia Berger et Laurent Montel. Et c'est judicieux parce que, en fait, quand ils sont en scène, leur dynamique est différente et ils apportent une énergie sur le plateau qui n'est pas la même que celle des chanteurs. Et donc, ça équilibre les choses de façon, je trouve, vraiment très pertinente. Donc, quand ils chantent, voilà, c'est pas formidable, mais c'est pas grave parce que c'est autre chose. Et alors, on a un peu de tout. On a dans ce spectacle des chanteurs lyriques qui jouent, des chanteurs lyriques qui sont aussi acteurs complètement, des chanteurs lyriques qui sont un peu moins acteurs, mais qui chantent très bien, donc ça va. Et en fait, tout ça se supporte et se soutient. Et plutôt que de se desservir les uns les autres, ils se servent les uns les autres. C'est assez paradoxal parce qu'une voix faible pourrait être encore plus criante à côté d'une voix forte. Et non, parce qu'elle est compensée par autre chose. Donc l'équilibre, assez périlleux, assez subtil, est parfaitement réussi.
Emmanuel Dupuis.
Oui, mais que dire de plus? Je suis d'accord à peu près sur tout ce qui vient d'être dit. Et je suis tout à fait d'accord avec Lucille concernant notamment les décors de Laurent Peduzzi qui sont effectivement à la fois très réussis esthétiquement et en effet très intelligents parce que les décors eux-mêmes participent de l'action théâtrale. Et en fait, je pense que le grand mérite de ce spectacle, c'est que les metteurs en scène n'ont pas voulu faire dire à l'ouvrage autre chose que ce qu'il raconte, c'est-à-dire c'est un pur vaudeville dans la tradition de Fedot ou la Biche, et voilà, on est là pour s'amuser. Il y a des portes qui claquent, des quiproquos rondement menés. C'est du pur divertissement dans le bon sens du terme, et en même temps aussi avec parfois une touche de poésie nocturne, de nostalgie, notamment quand Horace chante son désespoir de pouvoir un jour retrouver Angèle, et voilà. Donc on rit beaucoup et en même temps parfois on a un petit peu la gorge serrée. Donc il y a toujours cet équilibre ténu qui est assez réussi. Donc tout ça effectivement est assez réjouissant. Alors ensuite effectivement comme Anna l'a dit, le grand écueil de ce genre d'ouvrage, et c'est peut-être ce qui explique la disparition de ce titre du répertoire, parce que pendant très longtemps, le Domino Noir c'était vraiment un pilier du répertoire. Je crois qu'on en était à la 1200e représentation.
1300, je dis.
Voilà, à l'Opéra Comique au début du siècle, du
1909.
Et ensuite, l'ouvrage a totalement disparu. Et je pense que la raison pour laquelle ce genre d'ouvrage a disparu, c'est qu'on a perdu un petit peu le secret de cet équilibre entre dialogue parlé et musique.
On le voit souvent dans les Carmen qui donnent tout le théâtre de Carmen, et il y en a beaucoup, et c'est rarement réussi.
C'est rarement réussi, effectivement. Et là, bon, cet écueil, je trouve qu'on y échappe pas totalement, mais enfin, bon, quand même, les problèmes sont sacrément limités, effectivement, par le fait qu'on ait fait appel à deux comédiens pour chanter des petits rôles qui sont des petits rôles, mais quand même assez déterminants dans l'action. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, certains chanteurs sont des comédiens tout à fait aguerris. Je pense notamment à la mezzo Marie Lenormand.
Ah oui, j'allais en parler parce qu'elle est phénoménale.
Voilà, qui joue dans...
Parce que les gens qui ne l'ont jamais vue, qui la voient rentrer en scène, faire cette scène de comédie, ne peuvent pas penser qu'elle est chanteuse.
Exactement. C'est vraiment une comédienne et elle casse la baraque totalement. Mmh. Elle a un abattage fabuleux.
Et elle chante.
Et elle casse la baraque par son jeu et son volume. Bon, parce que là, on peut quand même préciser que les metteurs en scène en font une grosse bonne femme à la Dubout et c'est elle est totalement
dans les costumes de Vanessa,
c'est
les costumes de Vanessa Sanino qui n'est pas pour rien non plus dans la réussite parce qu'ils sont
totalement
absolument magnifiques ces costumes.
Mais elle a une fantaisie extraordinaire cette femme. On pense tout de suite, c'est elle qui faisait les décors aussi
Marie... vous parlez de Vanessa Sanino?
Vanessa Sanino qui faisait les costumes du fil à la pâte. C'est dans cet esprit-là complètement, on reconnaît. Et en plus, elle met en valeur, c'est ça qui est très beau, c'est que c'est complètement fantaisiste et délirant. Donc pour décrire un petit peu, on a une jeune Angèle qui est un cygne noir. Au départ, on a un Horace qui est lui plutôt sobre.
Sauf qu'il a quand même une plante qui pousse sur son haut de forme.
Voilà, absolument. On a un Giuliano qui est une sorte de pivert pan entre les deux.
Oui, qui ouvre sa route de temps en temps. Hein. Brigitte, elle a une robe absolument magnifique, la copine d'Angèle.
Une robe poussin.
Une robe poussin.
Antoine Edenfeld, magnifique.
Ah, extraordinaire.
Et puis, le comédien, pour le coup, Laurent Montel, le Lord Elford, qui est un porc-épic, tout à fait.
Qui peut parfois
ébouriffant.
Dresser ses pics. Oui. Donc, moi, j'ai vu la générale samedi soir. J'avais pas envie de rater ça parce que vraiment, Valérie Le Sort et Christian Heck, qui co-signent cette mise en scène, ils sont vraiment très, très, très doués. Comme vous avez dit l'essentiel, je ne rajouterai pas grand-chose, si ce n'est que ce livret de scribe, il est quand même assez incroyable. J'avais quand même des voisins qui s'étouffaient un peu à côté de moi pendant le troisième acte qui se passe au couvent, parce que le côté anticlérical, il est quand même...
C'est assez net, oui.
assez net. Non, mais je ne sais pas si aujourd'hui on écrirait tout à fait la même chose, parce que c'est quand même très violent. On peut dire ça comme ça, c'est très libre. Quelques réactions peut-être que Péa Ménardi glanées sur les réseaux sociaux.
Oui, là aussi, c'est aussi un petit peu unanime. Spectatif Frédéric parle d'un opéra comique féerique, surprenant de bout en bout, d'un plaisir grand et mémorable. Un commentaire d'Yves Bismullion, un véritable enchantement, un vrai délice, un régal pour les oreilles et pour les yeux. Christophe Tardieu écrit « Le domino noir à l'opéra comique, chanteur, mise en scène, tout était exceptionnel. Bravo à Olivier Manteille et à ses équipes. » Et enfin, deux commentaires de Time Warp. Le premier, Anne-Catherine Gillet était à l'image de sa robe, superbe. Et un second, il me faut le costume de François Rougier.
Oui, on va passer commande à la costumière. Tant qu'à faire le générique, saluons aussi les lumières de Christian Pinault, parce que vous avez parlé de ces ambiances qui sont quand même parfois très délicates. Et c'est vrai que j'ai ressenti aussi ces moments, un tout petit peu d'émotion au milieu de beaucoup, beaucoup de rire, et que les lumières n'y sont pas pour rien non plus, me semble-t-il, Maëlle Dupuis.
Oui, tout à fait. Visuellement, de toute façon, tous les éléments, enfin, on sent que tout a été pensé et tout est très bien calibré.
Alors, autre question, autre chapitre quand même, faut-il réhabiliter Daniel François Esprit Aubert? Est-ce qu'on peut parler de l'ouvrage? Bien sûr, dit Emmanuel Dupuis.
Bien sûr, évidemment.
La partition.
C'est une musique. Bon, évidemment, c'est pas du Richard Strauss, c'est pas du Richard Wagner, d'accord. Ça n'a pas cette prétention, mais c'est une musique d'un très grand raffinement. Et d'ailleurs, citer aussi le
Patrick Davin.
Patrick Davin, le chef qui met tout à fait en valeur ce travail d'orfèvre de la musique d'Aubert. Voilà, il faut beaucoup de subtilité pour jouer.
Alors, on a un micro qui nous fait des misères. Je ne sais pas lequel c'est. On va tout de suite le décider, enfin, s'en rendre compte. Serait-ce le mien? Non, ça fait vraiment de drôles de bruit. On va essayer de pouvoir, c'est celui d'Anne Segalevitch, mais on va vous le régler, Anna. Ne bougez pas. On va donner la parole à Lucille Comeau. La musique?
Alors moi, je suis moins...
Cliente.
Je découvrais l'ouvrage. Je pense qu'il y a quand même des parties meilleures que d'autres. Enfin, moi, les airs, par exemple, je m'ennuie un petit peu, je dois dire.
C'est combien d'entendre ce duo en Angèle
Horace?
Il n'est pas forcément très représentatif, en effet.
Oui, mais en fait, moi, ce que je trouvais assez admirable, mais ça va avec ce qu'on disait de la mise en scène, c'est qu'il n'y a pas de... En fait, au bout d'un moment, on n'entend même plus les transitions entre les parties parlées et les parties chantées. Et c'est là qu'on voit que les chanteurs font un travail formidable. Et notamment Cyril Dubois. Non, peut-être moins Cyril Dubois, d'ailleurs, qu'Anne-Catherine Gillet. Anne-Catherine Gillet, je la trouve absolument formidable parce qu'elle a un timbre qui convient parfaitement à ce type d'ouvrage. Et elle passe vraiment du parler au chanter sans qu'on s'en rend à peine compte. En revanche, Cyril Dubois, je trouve qu'au début, c'est très bien. Et puis, peut-être s'il s'emporte un peu, et je trouve qu'il en fait peut-être un peu trop dans certains airs où il est seul et où ça devient presque trop éclatant, peut-être trop lyrique entre guillemets pour l'ouvrage. Mais bon, c'est quand même très agréable à écouter.
Aubert, Segalevitch, le micro est changé.
Oui, c'est bon.
C'est très bien.
Tout le monde d'accord. Non, je suis pas folle non plus de
l'ouvrage. Il y a une efficacité quand même, jolie, c'est même un peu plus que ça, je trouve.
C'est très sympathique, c'est très bien fait, c'est absolument très bien fait. C'est pas une musique qui me touche plus que ça, hein. Mais il y a quelque chose de réjouissant et de très agréable.
Mmh.
Ce qui est quand même pas mal, Emmanuel Dupuis.
L'autre grand succès d'Aubert qu'on avait vu à l'Opéra Comique d'ailleurs il y a quelques années, c'était Fra Diavolo, qui a peut-être un peu plus de fantaisie encore que de... Enfin, c'est un autre registre, c'est plutôt un ouvrage picaresque. Et, mais voilà,
c'est, il y avait eu un autre Aubert, non, me semble-t-il, à l'Opéra Comique autre, également. Enfin bon, bref.
C'est bien possible, mais ça m'est...
La muette de Portici.
La muette
oui,
de Portici,
voilà. Là, c'est encore différent. Là, on est plutôt dans le registre du grand opéra.
Ouais. Mais ce registre-là, celui du Domino Noir, franchement, il est...
Oui, dans le genre, je veux dire, c'est... Ouais. Voilà, c'est
on comprend c'est le succès. Parfait, bah, et puis, à nous écouter ce soir, je crois que le succès est au rendez-vous, parce que c'est une belle idée d'avoir été chercher ce duo qui avait fait merveille, Valérie Le Sang et Christian Eck, avec ce 20 milieux sous les mers qui avait été présenté au théâtre du Vieux Colombier, repris d'ailleurs, on espère le revoir encore parce que c'est quand même une féerie, ce qui est le cas là aussi, dans cette production du Domino Noir, qui est donc présentée à l'Opéra Comique jusqu'au 5 avril. Nous avons appris, alors nous l'annonçons, sera repris à l'Opéra de Lausanne en janvier 2011, juste un tout petit peu peur,
21,
non, j'arrive plus à me relire, c'est repris en 2011, non, en 2021, je fais mal les deux, parce que je l'ai écrit assez mal sur mon conducteur, et que cet opéra, en attendant, 2021, sera diffusé sur France Musique, ça sera en 2018, on est bien en 2018, Lucille Gobeau, vous me le confirmez, le 15 avril à 20h.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute musique, par exception dans notre programme, c'est encore une fois une production scénique. C'est rarement le cas dans notre émission, mais bon, l'actualité est celle-là. On va parler maintenant de Benvenuto Cellini, de Berlioz, dirigé par Philippe Jordan, mise en scène Terry Gilliam à l'Opéra de Paris. C'est une mise en scène qui avait été créée en 2014 pour l'English National Opera, qui a beaucoup tourné depuis, mais qui avait scrupuleusement évité les frontières françaises. Il est maintenant présenté à Paris, cet opéra, en deux actes, quatre tableaux, pardon. Livré Léon de Vailly et Gus Barbier, qui retrace un épisode évidemment romancé de la vie du sculpteur florentin du XVIe siècle, Benvenuto Cellini donc. C'est Alfred de Vigny qui avait donné à lire à Berlioz une autobiographie de Cellini. Et il a eu envie de lui consacrer un opéra, une première qui a eu lieu en 1838, non pas à l'opéra comique pour lequel l'ouvrage était au départ destiné, mais à l'opéra Le Pelletier. Berlioz avait d'ailleurs dû remanier son œuvre à deux reprises, et puis ça n'a pas empêché un échec assez retentissant. Berlioz le fait retirer de l'affiche, puis Franz Liszt le dirige à Weimar en 1852, encore dans une autre version, qui fut jouée elle pendant un siècle ou près. Toujours aussi mal accueilli, visiblement, d'après ce que j'ai pu lire. Puis le Royal Opera House de Londres l'a repris avec quelques changements. Cette version de 1838. L'histoire longue et complexe, mais elle fut aussi douloureuse pour Berlioz, visiblement, qui s'en est jamais tout à fait remis. Opéra maudit, Benvenuto Cellini. On écoute un extrait avec Michel Lozier.
Oh,
Alors, malédiction, mais c'est bien sur scène, visiblement. Moi, j'ai lu pas mal de critiques n'ayant pas vu cette production, qui sont plutôt très positives. Anna Sigalevitch, premier regard sur ce Benvenuto Cellini.
Alors, je découvrais l'œuvre en scène, hein. je ne l'avais jamais vue.
Ça n'a pas été joué de votre vivant en même temps, jusque-là.
Comment ?
Ça n'avait pas été joué de votre vivant jusque-là. Ou à peu près.
J'ai écouté des extraits, mais bon, voilà.
Oui, non, mais sur scène. Ah,
sur scène, non, voilà, je ne l'avais jamais vu. Et alors, je suis un peu perplexe face à l'œuvre, je dois dire. Qui est...
Vous comprenez les difficultés qu'elle a pu avoir ?
Ah oui, je comprends, parce que c'est vraiment une œuvre très complexe.
Qu'est-ce
je
que
trouve.
C'est ?
Musicalement, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on part dans la comédie, hop, on va vers le grand opéra, il y a des moments lyriques, il y a des moments burlesques, il y a des moments de grimace à la Berlioz, comme ça, puis des moments... Enfin, et c'est très compliqué de savoir où on est. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu du mal à me repérer.
À vous géolocaliser.
Emmanuel, j'ai l'impression que vous voulez m'interrompre déjà, non ?
Non,
déjà.
Non, mais ça, c'est la folie berliozienne,
ah, oui, mais
dans toute sa démesure,
oui,
tout simplement.
Oui, mais il y a par moment, il y a des œuvres chez Berlioz où on arrive à suivre, ou en tout cas, c'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que je la revoie et que je la réécoute pour vraiment comprendre. Parce que ça fourmille, il y a des idées partout, tout le temps, qui sont pas évidentes à suivre quand on découvre une production. Alors ça, plus la mise en scène de Terry Gilliam, qui va dans tous les sens, qui est animée tout le temps. Donc ça fait beaucoup de choses à je trouve, voir en scène. Moi là, je suis très, très heureuse de l'avoir vue, mais j'ai pas eu un choc esthétique en entendant l'œuvre, hein, pour être tout à fait honnête. Voilà, même s'il y a,
Vous dites qu'elle va dans tous les sens, Anna Sigalevitch,
oui,
cette mise en scène, mais est-ce que ces sens épousent les mêmes sens que ceux de l'ouvrage, ou est-ce que ce sont des sens différents, ce qui rajouterait à la complexité de sa vision ?
Non, je ne pense pas que ce soit des sens différents.
Non, mais
non,
je m'interroge,
non, c'est
à vous
très
écouter.
Animé. Voilà, le cœur est important dans cet opéra, et il s'en donne un cœur joie. Terry Gilliam s'en donne un cœur joie, et le cœur de l'opéra de Paris s'en donne un cœur joie aussi. Hein, c'est-à-dire que les scènes de Mardi Gras, de Carnaval, de Beuverie, c'est assez hétéroclite finalement sur scène, parce qu'on peut voir du Ensor, on peut voir du Archimboldo, il y a un côté presque élisabétain, il y a un côté bien sûr Monty Python, enfin voilà, il y a beaucoup 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 de choses, avec un sens de la foule, du groupe qui est très bien fait, et en même temps plein de petits détails à la Monty Python, hein. Voilà, quelqu'un qui se casse la gueule, tout d'un coup un nain qui apparaît, ou quelqu'un qui marche à quatre pattes, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont très amusantes, mais c'est pas évident à suivre. Par ailleurs, donc moi, je m'attendais un petit peu à ce que le personnage de Benvenuto Cellini à suivre son histoire, etc. Finalement, on suit pas trop le personnage de Benvenuto Cellini, parce que donc c'est un artiste maudit, rebelle, voilà, qui se rebelle contre les souverains de son temps. On peut penser que Berlioz, qui lui-même avait des rapports, s'identifiait. C'est pour ça qu'il a eu envie de monter, de
consacrer un opéra,
de lui consacrer un opéra. Et ça, c'est pas tant traité que ça dans le livret.
Très bien. Alors, premier regard, cette fois, de Lucile Como, qui découvrait aussi, j'imagine, vu son jeune âge.
Oui, et je rebondis tout de suite sur le livret, parce que je pense que aussi le livret est extrêmement composite. Pour le coup, c'est pas le domino noir, mais il y a quand même quelque chose de ça, où il y a des choses, il y a une histoire d'amour très romantique entre donc Benvenuto Cellini et une jeune fille qui s'appelle Teresa, qui est convoitée par son rival, l'autre sculpteur de la ville. Il y a un côté un peu politique avec en effet ces grandes dimensions de foule, et il y a deux cœurs en gros, le cœur des ouvriers chez le cabaretier, et un cœur final qui à mon avis est le passage le plus réussi du point de vue de la mise en scène, d'ouvriers qui veulent cesser le travail au moment où Benvenuto Cellini est dans une sorte d'abîme, voilà, il sait plus trop où il en est. Moi, je suis un peu comme Anna, ça m'a tellement... je dirais pas que ça m'a un peu glissé dessus, à la fois parce que j'arrivais pas à m'accrocher à la partition, ni au livret, et je pense que la mise en scène aussi n'aide pas. En fait, il y a quelque chose en effet de très exubérant. Ça commence en gros, pour dire, dans l'opéra Bastille, par une sorte d'énorme débauche technique, voilà, avec des circassiens. Il y a un côté forain en fait, plus que circassien d'ailleurs, avec des grandes marionnettes, des acrobates
qui viennent de la salle,
qui arrivent derrière nous. Il y a des confettis qui pleuvent sur le public. C'est très m'as-tu vu, vraiment, c'est très m'as-tu vu. Et au bout d'un moment, on ne sait plus trop pourquoi, en fait. Il y a énormément de moyens. Enfin, moi, j'avais l'impression d'avoir une sorte de cagnotte, enfin, je ne sais pas comment dire, dans la tête. Je me disais, mais ça doit coûter, mais une blinde. Et en fait, on ne sait même pas pourquoi.
Une machine à calculer en action.
Je me suis dit, avoir ça dans la tête, ce n'est pas forcément bon signe. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'il y a énormément de choses. Il y a des décors en noir et blanc sur lesquels se surimpriment des choses de couleur. Il y a un nombre de gens sur scène. Enfin, moi, je n'ai jamais vu autant de monde sur la scène de l'Opéra Bastille. Et on se dit un peu, pourquoi, en fait? Parce que pas grand-chose d'émotion passe. Les scènes de foule sont très réussies. Les scènes, dès qu'il y a moins de monde, en fait, ça, moi, je trouve que ça va pas du tout. Notamment les duos amoureux, on n'y croit pas une seule seconde. Bon, ça tient, après, on va arriver au plateau vocal, mais peut-être aussi aux voix. Vraiment, tout ça pour... Bon, alors, le public adore. Hein. Alors là, le public de l'opéra était complètement à fond, moi, le soir où j'y étais. Parce que ça donne, quoi. C'est du grand spectacle. Mais je pensais qu'il allait y avoir des petits trucs un peu choquants, quoi. Des trucs un peu marrants de Terry Gilliam. Bah, pas du tout, en fait. C'est hyper sage. Enfin, c'est très exubérant et en même temps, c'est très sage.
Bon, alors, Emmanuel Dupuis, qui le revoyait, qui, lui, a vu une autre version scénique de Benvenuto Cellini. Quelle impression?
Très sage, très sage. Il faut le dire vite, quand même. Il y a quand même quelques gags, de temps en temps, assez qui mettent le public en joie. Moi, effectivement, j'avais déjà vu cette production à Amsterdam en 2015, je crois, et j'avais ressenti, à ce moment-là, tout au long du spectacle, un vrai sentiment de jubilation. Et cette jubilation, je ne l'ai pas tout à fait retrouvée à l'Opéra Bastille, mais à mon avis, le metteur en scène, le coupable n'est pas le metteur en scène, c'est plutôt le chef. Tout simplement parce que je trouve que Philippe Jourdan ne saisit pas le sens de cette musique. C'est une musique pleine d'ivresse, pleine de folie, et il y a quelque chose d'un peu compassé dans les directions de Philippe Jourdan. On a l'impression qu'il cherche à romantiser cette musique.
Ah, c'est pas le plus rock'n'roll ou le plus latin des chefs.
Voilà, c'est ça. Il cherche à faire du beau son en permanence, mais il oublie l'essentiel. Il oublie le grain de folie qu'il y a dans la musique de Berlioz et qui est absolument essentiel. Et là, effectivement, on a l'impression que ça n'avance pas, les enchaînements ne sont pas très rapides, les récitatifs sont comme plombés par quelque chose d'assez pesant, et donc du coup, ça ne contribue pas à accompagner la folie à laquelle on assiste.
Mais pour vous, la débauche de moyens, elle est plutôt bien utilisée,
Oui, parce qu'elle est à l'image de l'œuvre. C'est une œuvre délirante, tout simplement. Et Terry Gilliam prend cette œuvre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une farce monumentale où il est question effectivement de la condition de l'artiste aussi, mais bon, ça reste assez. C'est pas du tout une œuvre.
C'est pas hyper traité, hein, d'un point de vue psychologique.
C'est pas une œuvre philosophique. C'est une méga farce. Et Terry Gilliam le prend.
Comme tel.
Le prend comme tel, mais... et l'assume. C'est une œuvre habitée par l'esprit du carnaval. D'ailleurs, il y a le célèbre carnaval romain qui est au cœur de
le lundi gras et le mardi gras.
Voilà, de l'œuvre. Et la mise en scène est également habitée par l'esprit du carnaval. C'est une espèce d'immense kermesse qui commence effectivement pendant l'ouverture dans la salle avec lâcher de confettis, acrobates, jongleurs, etc. Et ce spectacle n'a pas d'autre but que d'en mettre plein les mirettes et d'amuser la galerie. C'est assumé. De ce point de vue-là, je trouve que c'est assez réussi.
Alors, pas d'accord, Lucien.
Non, mais franchement, je ne crois pas que ce soit uniquement du carnaval que cette œuvre. Enfin, justement, le premier tableau, admettons, ça se passe à carnaval. Mais par exemple, le dernier tableau, il y a quand même un moment où, dans le livret, Benvenuto Cellini est seul sur scène face à son œuvre, dont il sent qu'il n'arrivera pas à l'achever, et le couperet va tomber. En fait, il doit bâtir une grande, grande statue pour le pape. Sinon, il va mourir, il va tout perdre, en fait. Hein. Et c'est un moment. Enfin, il y a un air qui est déchirant, oui, et qui n'est pas du tout de l'ordre du carnaval.
Là, c'est pas traité comme un carnaval.
Au contraire, là effectivement, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus statique, et effectivement, tout se concentre sur le ténor John Osborne. Et heureusement, parce qu'il offre à ce moment-là une leçon de chant absolument faramineuse. Et donc, il y a quand même une variété des registres dans cette mise en scène.
Bon, 3-4 minutes encore sur le plateau vocal, parce qu'on l'a à peine, là, à l'instant, évoqué. Anna Segalevitch.
Sur le plateau vocal, alors, je suis partagée.
Un gros problème, dit Emmanuel Dupuis.
Un gros problème. Écoutez, moi, j'ai été très emballée par John Osborne, qui incarne donc Benvenuto Cellini, qui a vraiment une vaillance, une bravoure, qui est aussi bien dans les grands airs que dans les airs plus intimes. Et puis, Terry Gilliam en fait un petit personnage qui s'agite. Il a un côté David contre Goliath, en fait, dans cette mise en scène. On a l'impression qu'il court partout, tout le temps. Alors, du côté de la farce, plus que du drame, en effet, mais on y croit à ce personnage. Donc moi, j'étais très emballée vocalement et scéniquement par lui, très emballée par Michel Lozier qu'on a entendu. D'ailleurs, je trouve que elle a, en tout cas, dans cette production, parmi les plus beaux airs, je trouve que son duo avec Teresa est très très joli, que le moment qui est une sorte de trio avec Cellini est aussi très très beau. Donc très emballé par Michel Lozier. Pretty Ende, oui. Oui,
mais non.
Au niveau de la voix.
Parce qu'on a dit beaucoup, tout le bien qu'on pensait de la chanteuse à de nombreuses reprises.
Elle est mal distribuée, je pense. Enfin, je connais pas l'œuvre encore une fois, mais à mon avis, c'est pas la voix qu'il faut pour chanter Teresa. Elle est trop légère. Ça se voit que ça lui va pas. Enfin, ça se voit même physiquement que ça lui va pas, moi, je trouve.
Emmanuel Dupuis.
Non, mais le problème fondamental, c'est qu'une fois de plus, l'Opéra de Paris réussit l'exploit de présenter un ouvrage français sans aucun chanteur français. Et c'est pas simplement une question de passeport, c'est pas ça, c'est simplement que la maîtrise de la langue, c'est essentiel aussi pour la maîtrise du style musical. Et bon, il se trouve qu'effectivement que John Osborne, qui est américain, lui a une parfaite maîtrise du français et du coup une parfaite maîtrise du style. Il est absolument fabuleux, effectivement, à la fois dans les éclats héroïques et dans les passages plus élégiaques. Et je suis d'accord également avec Anna pour Michel Lozier, mais Michel Lozier, il se trouve qu'elle est québécoise, comme par hasard. En revanche, tous les autres, moi, je n'en retiens absolument aucun. Pour chanter Teresa, c'était vraiment pas la peine d'aller chercher Pretty Yandé, qui est sud-africaine. On a 10 sopranos légers en France qui seraient capables de chanter ce rôle-là et surtout de nous permettre de comprendre le texte, parce qu'on ne comprend pas grand-chose à ce que chante Pretty Yandé. Et c'est la même chose pour Fiera Mosca. À Amsterdam, c'était Laurent Nahori qui chantait Fiera Mosca. Et il était absolument fabuleux de drôlerie. Alors que là, on est allé chercher un Norvégien qui chante pas mal, au demeurant, mais qui n'a pas du tout de charisme. Donc voilà, c'est très étrange et c'est pour moi un contresens.
Quelques avis, Coppelia Ménardi ?
Oui, sur Twitter, un commentaire de Fauché B. C'est une folie des grandeurs assumées, une once de paillettes, un travail d'orfèvre, un vrai Berlioz Circus. Ce soir, l'Opéra de Paris était une fête. Enfin, Valérie, elle, écrit « Je m'attendais à ce que ce soit une folie et je n'ai pas été déçue. Mais ce Benvenuto Cellini explose trop dans tous les sens et du coup étouffe l'œuvre de Berlioz et les magnifiques voix de John Osborne et Pretty Yende. C'est too much, dommage. »
Bon, bah, ça partage un peu vos sentiments, finalement. Ces deux avis-là, bon, je reste un peu, du coup, perplexe, avec quand même l'envie de découvrir un opéra qu'on voit très 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 peu, Benvenuto Cellini de Berlioz. La direction de Philippe Jordan, j'entends bien les réserves, elles sont partagées en un mot, Lucille Como.
Ah oui, même dès l'ouverture, en fait, c'est assez évident, c'est lent et ça manque vraiment de fantaisie.
Enfin, Anna Sigalevitch, Philippe Jordan, très rapidement.
Terry Gilliam exacerbe la folie et Jordan la réfrène. Il contrôle beaucoup les choses. Donc du coup, il n'y a pas de cohésion totalement.
Si on va dans le même sens, c'est un peu embêtant.
Entre la fosse et le plateau.
J'entends bien. À découvrir jusqu'au 14 avril à l'Opéra de Paris, dans sa salle de Bastille. Et puis, on pourra l'écouter sur France Musique le 22 avril. Et avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, et c'est cette fois Camille André qui nous a rejoint pour nous rappeler la question d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
Qui a écrit Les Émigrants, mis en scène par Volodia Serre en ce moment ? Et la réponse est Winfried Jode Sebald.
On fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition Guernica jusqu'au 29 juillet au Musée National Picasso Paris. Quelle question ?
Lors de quel événement fut exposé pour la première fois Guernica de Pablo Picasso.
Votre réponse, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout cela auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, les autres, et vous abonner au podcast. Demain, préparez vos commentaires à 19h pour une dispute consacrée aux arts plastiques en compagnie de Corinne Rondeau, Yasmine Youssi et Florian Guettet. À notre affiche en suspens, c'est au Bal à Paris, Roman Photo au MUCEM à Marseille et puis le festival Circulation consacré à la jeune photographie européenne au 104.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Guernica au Musée National Picasso Paris. Consacrée à l'un des chefs-d'œuvre les plus connus de Pablo Picasso, cette exposition vous proposera une lecture de l'histoire de Guernica. Esquisses, post-scriptum, affiches et réécritures de grand format réalisées par plusieurs artistes contemporains rythmeront l'exposition et proposeront une grille historique complète pour saisir l'immensité de cette œuvre. Guernica, du 27 mars au 29 juillet au Musée National Picasso Paris. Un partenariat France Culture.
Votre soirée sur France Culture à 21h, Marie Riche reçoit la chanteuse Barbara Carlotti dans « Par les temps qui courent ». Les carnets de la création d'Aude Lavigne recevront ce soir la plasticienne Claudia Montanaris à 20h55 et puis à 20h30, fiction de France Culture. C'est le deuxième épisode des pages arrachées à Sylvia Plath dans une réalisation de Michel Sidorov. Tout de suite à Voix Nue.